France Info. France Info, les informés. Victor Mattet.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur France Info, à la radio et à la télé, canal 16 de la TNT. À la une, ce soir, les mots de Volodymyr Zelensky. Les États-Unis sont du côté de l'Ukraine. Réunion à l'Elysée avec Emmanuel Macron et leurs alliés et un engagement. 26 pays prêts à intervenir en Ukraine une fois qu'un accord de paix sera signé. Emmanuel Macron qui parle aussi de la crise politique en France. Il appelle tous les partis à faire preuve de responsabilité et assurer la stabilité. François Bayrou lui a reçu les socialistes. Aujourd'hui, seront-ils les prochains locataires de Matignon? L'hypothèse interroge et divise la droite. L'ancien président François Hollande lui appelle au compromis. Avant de faire ses cartons, François Bayrou prépare plusieurs décrets pour faire des économies sur les franchises médicales, par exemple. Que penser de la méthode? On en débat. Et puis, la génération Tanguy dans les grandes villes, à 26 ans, certains vivent encore chez leurs parents, faute de travail ou de loyer trop élevé. Leur encadrement n'est pas toujours respecté. Avec nous ce soir, Patricia Lémonière. Bonsoir Patricia. Grand reporter, votre livre Au cœur du chaos, la guerre racontée à votre fille. Alexandra Saviana est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Grand reporter à l'Express, bonsoir Adrien Brachet.
Bonsoir.
Journaliste politique au Point et Dominique Simonet, bonsoir.
Bonsoir.
Écrivain, journaliste, spécialiste des États-Unis, co-auteur avec Nicole Bacharan du livre Les grands jours qui ont changé l'Amérique, c'est aux éditions Perrin. Après 3 ans et demi de guerre en Ukraine, avons-nous justement vécu une journée qui restera? Les Européens, en tous les cas, se disent prêts, avec leurs alliés, 26 pays au total, à s'engager en Ukraine une fois que la paix aura été trouvée. Déclaration à l'issue de la réunion de la coalition des volontaires à l'Elysée autour d'Emmanuel Macron.
Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés, plusieurs autres encore à clarifier leur position, mais 26 pays qui se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présent sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix.
Patricia Lémonière, est-ce qu'on peut parler ce soir d'une réelle avancée?
On peut regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide, hein. Donc on va essayer de le regarder à moitié plein. Effectivement, là, on a un chiffre, 26 personnes, hein, 26 États,
26 pays,
avec d'autres potentiellement pouvant venir. On a quelques idées, effectivement, des hommes au sol, hein, principalement des Français, des Britanniques.
On le redit pour bien préciser, oui. Ce n'est pas pour aller combattre. Alors, là-bas, c'est une fois que la paix aura été signée.
C'est une fois que la paix a été signée, et là, justement... Au même moment, pratiquement, Vladimir Poutine nous dit qu'il n'est pas question de cette paix-là en question. Donc, continuons d'énoncer le projet. Le projet, c'est effectivement de mettre des troupes au sol, si la paix est donc signée, plutôt britannique et française. Et puis après, à la périphérie, des Allemands, les Polonais, etc. Et, évidemment... la garantie, la fameuse, que l'on attend toujours, la fameuse garantie américaine qui pourrait être en renseignement ou en aviation, on ne sait pas encore. Voilà. Ça, c'est pour l'idée. Mais sur cette idée, qu'est-ce qui se passe? Un, je viens de vous le dire, effectivement, Vladimir Poutine a dit, alors là, moi, s'il y a des hommes au sol, là, hors de question, pas de paix. Bon, ça. Deuxièmement, il ne veut effectivement pas aller sur le chemin de la paix alors qu'il estime remporter sur le terrain des victoires. Parallèlement, les Européens, enfin notre coalition, attendent toujours ce que va dire Trump. Et c'est là où le verre est un peu vide. Parce qu'on attendait beaucoup de cet appel téléphonique qui s'est passé cet après-midi.
Un appel, un coup de fil d'une heure, entre les alliés Emmanuel Macron et Donald Trump.
En plus, son conseiller particulier, celui de toutes, de toutes les négociations.
Son émissaire.
Son émissaire, celui qui est allé 6-7 fois à Moscou. Enfin bref, l'homme de la situation. On attendait beaucoup de ça. Et pour l'instant, eh bien, on attend quoi? Que Trump se décide. Et ça montre, et j'en finirai par là... la forme quand même de vassalisation de l'Europe vis-à-vis, enfin de cette coalition vis-à-vis de Donald Trump, totalement dépendante vis-à-vis de cette Amérique, vassalisation qui pour l'Europe a commencé avec le plan Marshall, et j'en finirai par là. Donc
Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui bien sûr était à Paris aussi aujourd'hui, il est arrivé hier, on l'a déjà entendu, il veut, lui, croire en des avancées. On va l'écouter.
Forcément, il y croit.
Ce qui est important, c'est que les États-Unis soient de notre côté. Aujourd'hui, nous avons discuté avec le président Trump, que nous remercions pour son soutien. La convention était longue et très précise.
Nous sommes très reconnaissants que les États-Unis font partie de ce système de garantie. Et maintenant, la contribution exacte américaine sera précisée dans les prochains jours.
Les États-Unis du côté de l'Ukraine, Dominique Simonet, c'est vraiment le cas désormais ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire ça. Patricia a raison. La véritable question, c'est pas Poutine. On sait bien ce que veut Poutine. Poutine, il veut l'Ukraine. Il veut vassaliser l'Ukraine. Il veut pas la paix. Il n'a jamais changé. Jamais changé. Et il ne changera pas.
Donald Trump, il a mis
c'est un dictateur conquérant. Alors justement, la vraie question, c'est Donald Trump. Parce que lui, effectivement, vous avez totalement raison de le rappeler. Il s'est bercé d'illusions. Il a fait presque un triple déni. Il n'a pas voulu comprendre la détermination de Donald Trump. Quand je dis il n'a pas voulu, peut-être que c'est aussi volontaire. Il s'est aveuglé d'une manière volontaire. La détermination de Vladimir Poutine de conquérir l'Ukraine. Il n'a pas voulu voir la détermination des Ukrainiens de préserver leur liberté et leur souveraineté. Et il n'a peut-être pas voulu voir non plus ce qui s'est passé avec, ce qui est en train de se passer avec l'Europe, c'est-à-dire aussi une forme de détermination européenne. Et aujourd'hui, on voit quand même, malgré tout, il y a une petite avancée. Les Européens, ils sont coincés. C'est très compliqué pour les Européens. Ils doivent être fermes avec Poutine, parce que eux, ils ont bien compris qui était Poutine. Ils doivent être doux avec Donald Trump. Il faut l'amadouer, parce que il faut garder ce fauve dans le camp des démocraties. Il n'est pas dans le camp des démocraties, Donald Trump. Ça, il faut bien le savoir. Il n'est plus dans le camp des démocraties. Mais malgré tout, on peut peut-être le garder. Il y a quand même les Américains, il y a l'opinion américaine. On peut le détailler si vous voulez. Mais il y a beaucoup de choses qui font que Trump, en fait, il est justement hésitant. Il a essuyé beaucoup d'échecs. Et là, actuellement, la vraie question, c'est de quel côté il va tomber.
Alexandra Saviana.
Comme toujours avec Trump, je pense qu'il faut regarder l'image. Et effectivement, aujourd'hui à Paris, il y a qui ? Il y a Steve Witkoff. Mais il n'y a pas Donald Trump.
L'émissaire, on le rappelle, américain.
Voilà, il y a l'émissaire, mais il n'y a pas Donald Trump. Donald Trump, il faut lui téléphoner si on veut lui parler. Le temps où le monde libre, guillemets, s'affichait.
Il a rencontré quand même et Vladimir Poutine et les Européens,
oui,
mais à Washington.
Mais
effectivement,
alors,
il ne s'est pas déplacé.
Justement, ça aussi, c'est très frappant. Il y a 3 semaines, il rencontre Vladimir Poutine. Il lui déroule le tapis rouge en Alaska. La poignée de main, la chaleur est réservée à Vladimir Poutine. Et même si ensuite les Européens se précipitent aux côtés de Vladimir Zelensky à Washington pour, si je parle familièrement, rattraper le coup, derrière à Paris, Donald Trump est toujours absent. Et en face, on a le négatif exact, on va en parler je suppose, mais de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, de ce Sud global qui s'affiche vraiment en photo de famille globale.
Avec ce grand sommet en Chine à Tianjin.
Avec ce grand sommet en Chine pour la parade militaire chinoise, pendant que l'Occident reste encore profondément divisé.
Adrien Brachet.
Oui, d'ailleurs, ce rassemblement en Chine qui est une forme d'échec réel pour Donald Trump, puisque un des objectifs avec Donald Trump en ménageant Vladimir Poutine était d'éviter que la Russie se rapproche trop de la Chine, qui est son rival numéro un, en fait, dans la conception géopolitique de Donald Trump. Donc, qui est cette réunion avec tous ces responsables du Sud global, dont la Russie en Chine, c'est un vrai, véritable échec pour Donald Trump. Pour revenir à ce qu'on disait, oui, ce qui est terrible, c'est que, d'une certaine manière, les Européens affichent leur unité, affichent leur détermination, mais on sent bien que la pièce charnière, et c'est là ce qui est terrible pour à la fois les Européens et pour les Ukrainiens, c'est Donald Trump. On a au point fait un entretien exclusif avec Volodymyr Zelensky en début de semaine. Il a reçu Étienne Jernel et Julien Perron, nos journalistes, à Kiev, et il dit au cours de l'entretien une phrase qui, je trouve, du bout des lèvres, qui est terrible pour les Européens, mais qui est la réalité. Il dit « Pour éviter que Poutine ne recommence la guerre, les garanties de sécurité de l'Europe ne suffisent peut-être pas. » Donc il le dit du bout des lèvres. Mais cette phrase dit tout. Elle dit ce constat, qui est aussi une forme de constat d'impuissance des Européens, même s'ils s'organisent, même si on peut voir que les choses avancent, en effet, pour pas voir totalement le verre à moitié vide. Mais on voit qu'il y a toujours cet élément-là, qui est que les Européens ont pris énormément de retard depuis des années, depuis des décennies, dans le développement de leur indépendance stratégique.
Clairement, Patricia Lemonnière, les Européens, s'ils veulent arracher ce soutien officiel et très fort de Donald Trump, tout cela a un prix. et assez fort.
D'abord, le soutien très fort, je ne sais pas, mais le soutien déjà tout court, ça serait déjà pas mal. Et il l'indiquait dans son appel téléphonique, dans ce qui a fuité de l'appel téléphonique, il est dit que Donald Trump demanderait aux Européens, d'ailleurs le président français y a fait une petite allusion, Donald Trump demande aux Européens de moins acheter de pétrole russe. Mais on achète peu de pétrole russe, mais on achète beaucoup de pétrole à l'Inde. Et donc, le pétrole qu'on achète à l'Inde, on est bien d'accord, c'est du pétrole russe. Donc, on le sait, l'Europe achète beaucoup de pétrole via des pays tiers, du pétrole russe. Et donc, ce pétrole russe, et c'est aussi vis-à-vis de la Chine, de prendre position aussi, il demande. Donc, on le voit, Donald Trump est toujours dans sa stratégie de deal, même sur un plan militaire, même sur un plan d'alliance. Pour lui, il n'y a pas d'alliance. Les alliances, c'est fini. C'est une autre époque. Maintenant, on est dans un relationnel commercial, même au niveau sécuritaire.
Et Dominique Simonet, il tient justement les Européens. On parlait du niveau commercial en matière de défense. Les Européens qui achètent les armes que les États-Unis livrent à l'Ukraine. Voilà, les Européens sont pieds et poings liés, on peut dire, par Donald Trump.
Bah, c'est-à-dire, on peut pas se passer des États-Unis. Et l'Ukraine ne peut pas se passer des États-Unis. Alors, pour l'instant, il y a essentiellement du renseignement et des fournitures, encore quelques petites fournitures d'armes. Et Donald Trump, on a vu, un petit infléchissement. Il a accepté de manière indirecte, et c'est pas du tout anodin que ce soit de manière indirecte, il a accepté de livrer 3200 missiles, je crois, ou 3300. Il faut encore que ce soit validé par le Congrès. Mais malgré tout, on voit qu'il est vraiment entre les deux. Et c'est ça qui est terrible. C'est en fait les garanties de sécurité. Vous avez raison, Patricia. C'est avec Donald Trump qu'il faut négocier et arriver à le tirer, parce que bon, l'Ukraine est dans une situation de souffrance terrible. Les Ukrainiens ont envie que ça s'arrête, mais pas au prix de leur souveraineté. Et actuellement, les Européens, vous l'avez dit, ne sont pas prêts. Donc il y a deux temps. Il y a un temps pour garder les États-Unis au sein de ce camp des démocraties qui soutient l'Ukraine. Il y aura peut-être un deuxième temps où les Européens, et c'est le but de la coalition des volontaires, serviront de bouclier. Mais encore une fois, on ne peut pas totalement se passer des Américains. Ça, c'est évident, ne serait-ce que pour les données satellitaires de renseignement. Et puis, notamment aussi, les missiles antimissiles qui protègent la population civile ukrainienne.
Mais la position aussi des différents pays sur l'envoi de troupes au sol ou non, c'est conditionné profondément par la confiance que l'on voit à Washington, parce que là on sait qu'il y a la France, le Royaume-Uni et l'Estonie qui voudraient y aller. Alors c'est un deuxième rideau de défense, il y a un cessez-le-feu, il y a les troupes ukrainiennes, ça se fait sous réserve que l'armée ukrainienne soit vraiment renforcée, soit robuste, c'est ce que demande Zelensky, et un deuxième rideau...
Avec cette particularité, on peut le rappeler, de travailler justement à l'envoi de ces troupes, alors que le cessez-le-feu est très très loin aujourd'hui.
Oui. Oui, voilà, mais c'est ça. Mais donc, du coup, on est vraiment dans une sorte de... c'est presque un exercice psychologique, très théorique, mais cet envoi de troupes allemands, italiens, qui n'ont pas lieu pour l'instant, parce que ces pays refusent d'envoyer des soldats en Ukraine. Giorgia Meloni l'a encore répété cet après-midi. C'est aussi conditionné au fait qu'ils ne sont pas sûrs qu'en cas d'agression, si jamais après un cessez-le-feu, mettons, la Russie s'amusait à envahir l'Ukraine à nouveau, que leurs propres soldats seraient défendus par les États-Unis. Donc ça dit aussi quand même un peu de la fragilité d'une alliance otanienne qui était le fondement de la protection de l'Europe depuis près d'un demi-siècle.
Patricia Lemania, Dominique Simonet.
Petit élément, les armes dont on parle, qu'on va livrer, c'est l'Europe qui achète les armes aux États-Unis pour les livrer en Ukraine, mais on ne sait pas si les États-Unis vont donner la permission aux Ukrainiens de les utiliser dans la profondeur. Il y a toujours quand on achète quelque chose aux États-Unis sur le plan militaire, il faut savoir que l'on est totalement dépendant et attaché, point lié à eux, qui vont nous donner ou non l'autorisation de les utiliser.
Juste pour rebondir un tout petit mot là-dessus, c'est indirect en fait, justement, de tout ce qui se fait avec les États-Unis. On essaye de dire à Trump, on aimerait bien que vous fassiez ça, mais on ne va pas vraiment le dire. Donc là, par exemple, c'est une coalition sans l'OTAN, c'est bien répété sans arrêt. C'est pas dans l'OTAN. Non, Donald Trump, ne vous inquiétez pas, c'est pas dans l'OTAN. Voilà. Effectivement, c'est de la psychologie.
Adrien Brechet.
Oui, non, en parlant de psychologie, ce qui est très compliqué aussi, c'est que Donald Trump lui-même, si on refait le film en fait, des 6 derniers mois, a énormément variés et a envoyé des signaux très contradictoires. Rien que cet été, il met la pression sur Vladimir Poutine en parlant d'un ultimatum. Il met de la pression sur l'Inde à travers les droits de douane, puisque l'Inde importe beaucoup de pétrole russe. Et en même temps, il y a la main tendue en Alaska. Donc, il envoie des signaux extrêmement contradictoires. Et je pense qu'une chose qu'il faudra suivre...
Sans oublier le rapprochement avec Volodymyr Zelensky, alors qu'on se rappelle de cette scène surréaliste dans le bureau de la Maison Blanche, dans le bureau ovale, il y a 6 mois. Ovale.
Et donc, je pense que ce qu'il faudra aussi surveiller, c'est un point qu'on évoque peut-être un peu moins, c'est l'évolution de l'opinion publique américaine et l'évolution des débats américains, puisqu'il va y avoir bientôt des mid-term aux États-Unis, et que vous avez certains élus républicains qui commencent à dire qu'il faut cesser de ménager Vladimir Poutine si les choses n'avancent pas suffisamment. Donc, ce sera extrêmement important de suivre aussi cette dimension-là.
Dominique Simonet-Bouquet, qui est spécialiste des États-Unis.
C'est très intéressant, parce qu'il y a 2/3 à peu près des Américains qui considèrent que l'Ukraine est un pays allié, et je crois 80%, donc c'est assez écrasant, qui considèrent que la Russie est un pays ennemi. Donc, le souvenir de la guerre froide, pour un certain nombre de générations, n'est pas disparu. En même temps, il y a 2/3 qui veulent la fin de la guerre, mais avec les Européens, en associant les Européens. Et troisième chiffre, il y a 2/3 à peu près, c'est 70, 66, 68, d'Américains qui sont pessimistes sur l'avenir de conflit. Donc, c'est un peu contradictoire, mais malgré tout, ça ne correspond pas du tout à l'état d'esprit de Donald Trump.
Patricia Lémonière, si on se projette vers l'avenir, les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois, on ne va peut-être pas aller jusque-là, mais c'est quoi la suite après ce qui s'est passé aujourd'hui ?
Alors là, c'était terriblement difficile parce qu'il faudrait pouvoir lire dans le psyché dont on fait tous allusion de Donald Trump. Et on dit que le dernier qui est rentré dans son bureau emporte l'avis qu'il va tout de suite distiller. Et puis après, il peut changer très vite. Je crois qu'il y a des tendances profondes. La tendance profonde, c'est le désengagement effectivement américain qui était déjà entamé sous Obama et qui se poursuit et qui s'accélère. L'autre chose aussi, c'est qu'on a Donald Trump qui peut très bien demain abandonner l'Ukraine en nous laissant quelques petites garanties et puis en disant c'est trop compliqué.
On n'est pas à l'abri de ça. C'est un nouveau volte-face.
On n'est pas à l'abri de ça. On vous laisse 3 avions et un peu de renseignements, mais on s'occupe totalement d'autre chose. Donc on n'est pas à l'abri de ça parce que son obsession, c'est ce qui s'est passé, comme vous avez dit, à Pékin l'autre jour. Il aurait rêvé d'être à la place de Xi, avec Xi Jinping, le Chinois, avec à sa droite Vladimir, à sa gauche Xi, et puis peut-être le Nord-Coréen qui devait aller voir. Et là, Xi lui a volé la place, parce qu'il a invité le Nord-Coréen avant que Trump le rencontre. Donc je pense que Trump est aligné idéologiquement avec ces 3 autres personnages. Il y a une démocratie aux États-Unis, mais il n'est pas aligné sur un plan idéologique avec l'Europe, ça c'est certain.
Alexandra.
Sur le côté, justement, c'est le dernier qui a parlé, qui est passé dans le bureau, qui a raison. Il y a une scène assez intéressante qui s'est produite cette semaine, c'est la visite du président polonais, très conservateur, dans le bureau ovale, justement, qui est venu, alors ça crée des dissensions d'ailleurs un peu en Pologne, mais avec le Premier ministre, mais il est venu pour demander à Donald Trump de garder les troupes américaines dans le pays. Et donc sur CNN, on voyait tourner les titres de les États-Unis resteront en Pologne.
Même renforcé, mais c'était comme
si c'était conditionnel au départ, alors qu'il y a quelques années, on n'aurait jamais eu ce type de discussion. Alors, il y a une chose qui va être très intéressante de regarder, c'est la revue nationale stratégique américaine qui va être publiée normalement à l'automne par le Pentagone, où là, on verra à peu près comment ils veulent repositionner leurs forces, s'il y a vraiment de gros mouvements dans les troupes ou pas, sachant que en début d'année, il y a eu un papier très intéressant du Financial Times qui disait que le ministre de la Défense allemand, Pistorius, avait demandé au secrétaire de la Défense américain, donc Pete Hegseth, justement d'avoir un peu de visibilité sur les mouvements éventuels de troupes américaines en Allemagne. Donc on en est là pour le moment. Évidemment, il n'y a pas de retrait américain en Europe, mais tous les Européens sont très fébriles parce qu'ils s'attendent un peu à tout, hélas.
D'autant plus fébriles qu'ils sont proches de la Russie. Parce que là, toute la question se résume à comment on apprécie la menace. Est-ce que vous pensez que Vladimir Poutine est une menace pour vous ? Et plus on s'éloigne de la Russie, plus la question est... Mais maintenant, on voit que les Européens ont l'air d'avoir de plus en plus une conscience aiguë d'une menace russe. Pas forcément avec des troupes russes à Paris, mais on voit bien à quel point la Russie... multiplie les ingérences et veut casser, disloquer l'Europe.
Adrien.
Oui,
et Patricia Lemonnier derrière.
Là-dessus, si on regarde sur le temps long, pour l'instant, c'est le cas avec toute une série de gouvernements en Europe qui semblent prendre conscience de la menace. Mais on ne sait jamais, dans les prochaines années, dans la prochaine décennie, qui pourrait prendre le pouvoir dans les différents pays européens. Donc on est même, nos démocraties sont même de l'intérieur extrêmement vulnérables, puisque vous avez toute une série de forces politiques qui ne prennent pas du tout en compte l'existence de cette menace-là. Donc la fragilité de l'édifice, elle vient aussi de là.
Patricia Lemonnier.
Sur la menace et sur la perception de la menace et de la guerre, ce qui était très étonnant, c'est que ça a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. C'est l'annonce de la Haute Autorité de Santé qui a dit qu'il faut se préparer dans les hôpitaux à la guerre. Et je peux vous dire que ce document qui a fuité, qui est sorti par le Canard enchaîné, je crois, et qui a été repris sur le plan médiatique, ça a inondé les réseaux sociaux et les jeunes en particulier sont très inquiets et se montraient très inquiets par rapport à cette nécessité au sein de la Haute Autorité de Santé de dire que tous les hôpitaux, les médecins, tout ça doivent s'entraîner parce que la guerre pourrait advenir prochainement.
Allez, encore un mot sur ce sujet, Alexandra Saviana.
En fait, la grande question, c'est comment faire prendre conscience aux opinions publiques au-delà des chefs d'État que le conflit en cours va aussi les toucher. Et donc, c'était tout le travail avant l'été, notamment du chef d'état-major, l'ancien Thierry Burkhardt, qui avait fait, vous vous souvenez, une conférence de presse où il expliquait...
Et avant cela, la prise de parole avec un ton très grave d'Emmanuel Macron, on s'en souvient.
Et on se souvient de sa prise de parole aussi à l'hôtel de Brienne, où il expliquait que les crédits de la loi de programmation militaire allaient être augmentés et renforcés pour l'exercice à venir. Donc, en fait, là, les dirigeants européens sont aussi confrontés, Adrien le disait très bien, à la question intérieure, qui est comment faire prendre conscience à leur propre population, qu'ils sont touchés eux-mêmes sur leur sol très souvent par des ingérences russes qui peuvent prendre des manifestations physiques. Et il était très frappant de voir justement dimanche Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, parler désormais de sabotage. On n'hésite plus à dire désormais il y a des Russes qui peuvent préparer des actions de sabotage sur le continent européen. Donc ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas seulement un conflit lointain à l'extrémité de l'Europe, c'est vraiment chez vous. Ce ne sont pas des chars russes, mais ce sont quand même des actions de déstabilisation et ça vous touche.
Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette réunion aujourd'hui à l'Élysée autour d'Emmanuel Macron, le président de la République, qui a également évoqué la crise politique en France à l'issue de cette réunion à 4 jours de la chute annoncée du gouvernement. Le président qui appelle les forces politiques à faire preuve de responsabilité, je cite, et à assurer la stabilité. Adrien Brachet, c'est un vœu pieux.
Oui, d'une certaine manière, surtout que on ne peut pas mettre de côté le fait que la dissolution dont il a été à l'origine a contribué à l'instabilité actuelle et que une instabilité qui pouvait paraître un peu chronique ou temporaire est en fait en train de s'installer comme quelque chose de profond. Et pour s'en sortir, il va falloir un changement de culture politique, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une tripartition du monde politique, mais même du pays, qui s'est installée et qui fait que on ne reviendra plus à au confort des majorités simples de la Ve République avant longtemps. Et que même si demain matin on faisait une dissolution, voire même une élection présidentielle, rien ne dit qu'on sortirait de cette tripartition et donc de cette potentielle instabilité. Et donc pour en sortir, il va falloir que les différentes forces politiques apprennent à travailler différemment, quelles qu'elles soient.
Est-ce qu'elles en sont capables ?
Je pense que confronté aux événements, on peut espérer que, vous savez, les événements font les hommes, ou en tout cas révèlent les hommes et les femmes. Et je pense que la situation actuelle devrait forcer les uns et les autres, que ce soit à droite ou à gauche, à le faire, à changer notre culture politique. Mais on en est encore loin.
On a beaucoup entendu ces derniers jours, Alexandra Saviana, des hommes politiques de tous bords, dire voilà, il faut penser autrement, il faut faire des compromis. On a l'impression que ce discours, on l'entendait déjà finalement après la dissolution il y a un an et demi.
On l'entend déjà et aujourd'hui la grosse question c'est est-ce qu'ils vont arriver à justement pouvoir s'entendre alors que il y a de multiples priorités, de multiples fronts et est-ce qu'on s'entend sur la défense, est-ce qu'on s'entend sur la santé, est-ce qu'on s'entend sur l'éducation avec un budget contraint qu'on connaît, on va en parler je suppose. Là aujourd'hui ils sont un peu confrontés à des positions schizophrènes parce que augmenter un budget de la défense c'est aussi refuser de l'augmenter ailleurs. Et Et quand on est face à un spectre politique aussi divisé, forcément, c'est d'autant plus complexe.
Patricia Lémonière, votre regard sur cette situation, ce blocage pour l'instant, alors que le gouvernement Bayrou n'est pas encore tombé, mais tout le monde pense déjà à l'après.
Effectivement, il y en a qui se disent prêts à y aller. Hein. C'est les socialistes. En tout cas, ils ont dit qu'ils pouvaient répondre si on les appelait, en tout cas. Si on regarde un peu ce qu'ils représentent avec les alliés écologiques ou partis communistes, effectivement, ils n'ont pas, ils sont loin, ils sont très très loin de la majorité. Et donc, pour ça, il faudrait pour faire passer leur projet, disent-ils, faire des alliances. Alors, est-ce que Bruno Retailleau va faire des alliances ? Enfin, tout ça est très hypothétique et tous les grands projets qu'il porte, c'est-à-dire retraite, Tax Zuckman, etc., je ne les vois pas avancer sur ces terrains-là et donc il y a un risque de décevoir les électeurs. En revanche, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un petit à l'italienne, style Mario Draghi, un petit premier ministre. Un gouvernement technique, comme ça, qui rassemblerait tous nos hommes politiques.
C'est pas la culture française,
justement. Je me suis renseignée, j'ai découvert qu'on n'avait pas du tout cette culture-là. En plus, on a un président qui nomme le premier ministre et qui est chef de parti, ce qui n'est pas le cas en Italie.
Allez, on va continuer la discussion dans un instant. Vous restez avec nous, Dominique Simonet, Adrien Brachet du Point, Alexandra Saviana de l'Express et Patricia Alémonière, la seconde partie désinformée dans un instant, il est 20h30. France Info, 20h30, Emmanuel Langlois.
Et Volodymyr Zelensky salue ce soir l'engagement pris par 26 pays amis de déployer des troupes en Ukraine ou bien d'être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour garantir la sécurité du pays. Après un hypothétique cessez-le-feu avec Moscou, c'est la première avancée concrète aussi sérieuse, a déclaré le président ukrainien depuis l'Élysée en compagnie d'Emmanuel Macron. Quatre affiches portant un message pro-russe ont-elles été découvertes hier soir sur plusieurs piliers, le d'Arc de Triomphe à Paris. Elles ont été rapidement retirées. Une enquête a été ouverte. Les éditions L'Iconoclaste, elles interrompent pour toute la promotion autour de la bande dessinée Notre Affaire, consacrée au procès Pellicot, après avoir appris qu'un des 23 dessinateurs a été par le passé accusé de violences sexuelles par une ex-compagne qui a publié un long message sur Instagram après la sortie de la BD. C'était jeudi dernier. Le dessinateur mis en cause a illustré une cinquantaine de pages de cet album. La gendarmerie du Puy-de-Dôme, elle lance un avis de recherche pour le moins insolite pour tenter de retrouver le propriétaire d'un seau égaré et bourré de billets de banque. Il a été retrouvé il y a une semaine environ. D'après le procureur de Clermont-Ferrand, la somme retrouvée s'élève à environ 10 000 euros tout de même. Personne ne l'a encore réclamé. Trafiquant, butin de cambriolage ou simplement un riverain qui aurait perdu ses économies, eh bien la gendarmerie n'écarte ce soir aucune hypothèse. Un ressortissant suisse âgé de 22 ans a lui été enlevé samedi avant d'être finalement libéré le lendemain par le GIGN à Valence dans la Drôme. Les ravisseurs sont soupçonnés d'avoir commis cet enlèvement en échange d'une demande de rançon en crypto-monnaie à un ami de la victime. 7 personnes ont été placées en garde à vue dans cette affaire. L'étranger, puis le déficit commercial des États-Unis qui s'est de nouveau creusé au mois de juillet sous l'effet d'une hausse notable des importations, et ce juste avant l'entrée en vigueur des droits de douane présentés improprement comme réciproques par le président Donald Trump. Les Français, eux, se promènent face à l'Islande pour leur dernier match de poule de l'Eurobasket. Les Bleus s'imposent largement 114 à 74 en Pologne face à la nation la plus faible de leur groupe.
France Info. 20h, 21h. France Info, les informés, Victor Matet.
Et bienvenue si vous nous rejoignez dans les informés avec ce soir Patricia Alémonière, grand reporter, le titre de votre dernier livre Au cœur du chaos, Alexandra Saviana, grand reporter à l'Express, Adrien Brachet, journaliste politique au Point et Dominique Simonet, écrivain et journaliste spécialiste des États-Unis. Votre livre à vous, Les grands jours qui ont changé l'Amérique. Nous parlions du gouvernement Bayrou qui, sauf énorme surprise, devrait tomber lundi 8 septembre. Votre vote de confiance des députés, Emmanuel Macron lui a demandé à François Bayrou de tendre la main au Parti socialiste. Le premier secrétaire Olivier Faure était reçu ce matin à Matignon. Il n'y a pas eu de miracle.
On était venu par courtoisie républicaine parce que le premier ministre nous y avait invités. Et donc nous sommes venus rappeler que nous proposions un chemin différent de celui qu'il propose. Et il nous a rappelé qu'il était en désaccord avec nous. Donc il y avait deux projets qui se confrontaient. Je crois qu'il y avait pas de suspense pour vous, il n'y en avait pour personne, ni même pour le Premier ministre, qui savait très bien que nous ne changerions pas d'avis.
Dominique Simonet, les socialistes aujourd'hui croient en leur chance d'aller à Matignon. Vous y croyez, vous ?
Écoutez, Olivier Faure est quand même spécialiste des volte-face et des alliances un peu bizarres. Je pense que si c'est le cas, le PS au gouvernement, le PS d'abord explose. Bon, ils sont plus très nombreux, mais bon, ils explosent. On les a vus quand même se réunir par deux fois avec LFI, qui est un parti révolutionnaire. Eux, c'est un parti de gouvernement. Donc déjà, le socle des valeurs. Qui normalement font de la politique avait explosé, et c'est d'ailleurs une des raisons dont on parlait tout à l'heure de cette instabilité, c'est que l'affrontement politique et le débat politique n'est plus vraiment fondé sur des valeurs, il est fondé sur des considérations extrêmement politiciennes.
Adrien Brachet, Dominique Simonet parlait de LFI, mais il n'y a pas de question de faire entrer les insoumis dans un gouvernement avec les socialistes.
A priori, en tout cas, les socialistes ont dit qu'il n'y aurait pas d'insoumis dans leur gouvernement. Mais on voit bien qu'en fait, les socialistes sont extrêmement tiraillés dans la période. D'ailleurs, comme ils le sont depuis un an ou un an et demi, si on regarde un peu leur séquence, en fait, ils sont tiraillés entre, d'un côté, leur aspiration à rappeler qu'ils sont un parti de gouvernement, qu'ils sont un parti responsable. Ils veulent aussi éviter une dissolution, donc ils ont plutôt intérêt à la stabilité. Donc c'est pour ça qu'ils ont tout de suite dit « nous sommes prêts à venir
Il y a eu le rendez-vous raté pour la gauche avec l'épisode Lucie Castel l'an dernier.
Oui, mais là, voilà, ils disent « on est prêts, on est là », etc. Mais ils restent quand même très prudents, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas concrètement comment un gouvernement... alors ils disent « il n'y aura pas de 49-3 », mais à part ça, ils ne disent pas concrètement comment un gouvernement tiendrait. Ils ne disent pas clairement les conditions précises d'un accord avec le Bloc central qui ferait que leur gouvernement ne chuterait pas, parce qu'en fait, d'un autre côté, c'est-à-dire que d'un côté, ils ont cette envie de gouverner, mais de l'autre, on est à quelques mois des élections municipales, notamment, et le Parti socialiste a très peur de se retrouver marginalisé du reste de ses partenaires, notamment des écologistes, dont ils ont besoin pour gagner un certain nombre de mairies. Ils ont très peur de se retrouver seuls en cas de dissolution. Donc, ils sont vraiment balayés entre ces deux injonctions contradictoires. Un, il faut rappeler qu'on est un parti de gouvernement, mais deux, ils ont très peur aussi, psychologiquement, de s'isoler du reste de la gauche. Donc ils sont dans un entre-deux et ils vont devoir trancher.
Ils auraient intérêt, justement, Alexandra Saviana, à y aller, les socialistes, à Matignon ?
En fait, moi, la question que je me pose, c'est... Enfin, je veux pas couper le débat.
Ce serait pas un piège, même, pour eux ?
Mais en fait, je me demande comment, parce qu'il n'y a même pas un trou de souris pour imaginer qu'ils puissent arriver à Matignon. Parce que, imaginons, ils s'allient avec le Bloc central.
Y arriver peut-être, mais rester, c'est une autre question.
Alors, justement, si on fait un petit peu les hypothèses, ils y arrivent, mais ils font une alliance avec le Bloc central pour ça. LFI va vouloir s'opposer parce qu'ils passent dans l'opposition, vu qu'ils sont alliés au Bloc central. Bruno Retailleau a dit aujourd'hui même qu'il ne voterait pas pour
le... Oui, mais les Républicains sont plus ambigus en interne là-dessus.
Il y a des divisions au sein des Républicains. Si vous le voulez, on va écouter Laurent Wauquiez, le chef de file des députés LR, justement en désaccord avec Bruno Retailleau. Vous allez comprendre. On va écouter Laurent Wauquiez des Républicains.
On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurera pas un gouvernement du RN. Pourquoi ? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays.
Voilà, ça correspond à ce que vous disiez, Alexandra, ou Adrien, je ne sais plus lequel des deux avait la parole.
Adrien le disait, mais en fait, c'est frappant, parce que cette division, effectivement, que Adrien relève entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, ça va aussi servir de négatif et de précipiter aux conséquences de cette dissolution. Ça éclaire les divisions entre tous les camps.
Et vous avez une même division au sein du PS, d'une certaine manière. Donc, s'il s'agit de repousser les extrêmes dans leur coin et de créer un socle commun démocratique républicain, est-ce qu'il y a une majorité? C'est pas sûr du tout. Et donc, quel que soit le gouvernement, il n'aura pas de majorité au Parlement.
Donc, Patricia Lemanière.
Il n'y a pas eu de majorité, de toute façon, depuis la dissolution. Donc, voilà. Ça a malgré tout fonctionné. Et le pari des socialistes, pour revenir à eux, c'est qu'en ce moment, effectivement, vous avez totalement raison, c'est très difficile parce qu'ils voient que cette présentation qu'ils ont aujourd'hui de parti de gouvernement, de responsabilité, porte ses fruits. Ils augmentent progressivement. Les sondages montrent qu'ils sont en croissance. Donc, c'est un atout qu'ils ne veulent pas perdre par un renvoi. Donc, ils se montrent totalement ouverts. Alors, la seule question, effectivement, c'est si, dans le cas totalement improbable où Emmanuel Macron les appelle, mais on ne sait jamais, tout est possible avec notre président, il les appelle. Que vont-ils faire ? Abandonner la taxe Zucman ? Ils ne peuvent pas la proposer. Par contre, ils peuvent proposer
autre
chose.
On rappelle, taxer les plus riches,
oui, taxer
de 2%
les plus riches, qui pourraient rapporter quelques 14 milliards, ou je ne sais plus, enfin, une somme importante qui permettrait de financer le budget qui est inférieur et qu'ils proposent. Mais ils pourraient proposer de faire revenir l'impôt sur la fortune. Et là, il y a des marges de manœuvre, parce que l'impôt sur la fortune, contrairement à ce que l'on pense, revu et corrigé, il y a au sein du bloc central, il y a des marges de manœuvre.
C'était trois aussi.
Oui, c'était trois.
C'est compliqué aussi parce que de plus en plus, nos partis politiques, et je les englobe tous quand je dis ça, sont devenus des partis d'auto-entrepreneurs, où en fait, les élus des partis se sentent de moins en moins redevables de leur parti, puisqu'ils sont de plus en plus élus sur leur nom et de moins en moins sur leur étiquette. Et donc, ça permet un peu à chacun d'avoir sa propre ligne en fonction de sa circonscription, en fonction de son territoire. Donc en fait, au sein de tous les camps, vous avez une forme de brouhaha, c'est-à-dire que demain, si on disait on veut rétablir l'ISF, je pense que le bloc central serait partagé, que tout le monde n'aurait pas la même position. Et vous prenez plein de sujets comme ça, sur lesquels les partis se fracturent, et donc ça complique aussi la lecture politique de la séquence.
On va écouter un nom qui, lui, s'était opposé au monde de la finance, c'est François Hollande. Après Nicolas Sarkozy cette semaine, un autre ancien président fait entendre sa voix, c'était aujourd'hui, justement pour essayer de trouver la voie à suivre.
Ce Premier ministre ou cette Première ministre devra chercher avec les groupes, ceux de sa majorité s'il en a une, ceux de l'opposition, un compromis pour le budget. Il y aura des concessions à faire à ceux qui ne sont pas dans cette majorité. Il ne faut pas se buter, il ne faut pas dire c'est mon plan ou rien d'autre, sinon là c'est la chute.
Ce que dit aussi François Hollande, c'est qu'il ne croit pas à une coalition, c'est-à-dire qu'il y aura une majorité de droite ou de gauche installée au gouvernement et qu'ensuite il faudra discuter. Pourquoi Dominique Simonès, qui ne marche pas pour l'instant, pourrait marcher demain ?
Il y a quand même cette culture dont on parlait tout à l'heure, cette culture politique qui n'est pas une culture du compromis. Il y a des pays qui font des majorités de projets alors que leurs partis sont pourtant différents. Ça, en France, c'est impossible. Même, on est même, j'ai l'impression, dans une pente qui ressemble un peu à celle des États-Unis, où il y a une radicalisation de la pensée, des opinions, où quand vous émettez une opinion, elle est aussitôt mise dans un camp ou dans l'autre, et qu'il n'y a plus vraiment d'adversaire, mais ça devient des ennemis. Donc quand vous avez une telle rugosité du débat, ça devient très très difficile de faire des alliances. Et je pense aussi que quand on discute avec les Français, d'abord, il y a le pouvoir d'achat qui compte, c'est avant tout le pouvoir d'achat, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils vont encore nous raboter quelques dizaines d'euros, et pour nous c'est fondamental, et ça, on n'a pas l'impression que ce soit très écouté dans la classe politique, malgré les discours, et il y a aussi surtout plus globalement un manque de vision, parce qu'on peut pas, il n'y a pas que le budget, on ne peut pas simplement raboter des lignes budgétaires ou faire des économies sur d'autres, c'est proposer une société qui soit un peu cohérente, qui correspond à des valeurs avec
le fait
avec
aussi, peut-être, et c'est le calendrier électoral qui veut ça, que tout le monde regarde très rapidement vers 2027. On a l'impression aujourd'hui, Raphaël Glucksmann le disait ce matin sur France Info, il faut trouver une personnalité pour Matignon, eh bien qui ne soit pas avec d'autres ambitions, Alexandra Saviana, à long terme.
Même dans il donne aussi une interview dans Libération ce matin, et il dit il faut qu'on trouve quelqu'un pour gouverner pendant un an et demi, mais c'est un peu un vœu pieux, parce que quelle personnalité, effectivement, va pouvoir tenir sur son seul nom. Là, dans les hypothèses qu'on fait, on parlait de la gauche tout à l'heure, qui à gauche, qui au PS, on a beaucoup évoqué par le passé, manifestement c'est hors de question pour le PS, justement, quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, mais si une personnalité comme ça, ou une personnalité, je ne sais pas, de la société civile était nommée, ce serait pas pour un an et demi, ce serait certainement pour trois mois. En fait, tout gouvernement qui va être nommé là sera forcément indexé sur le bon vouloir de l'opposition et finira par chuter.
Adrien Brachet.
Oui, d'autant que le grand basculement aussi du moment, c'est le Rassemblement national qui semble être revenu à son ADN populiste, dégagiste, contestataire, et qui laisse entendre qu'il censurerait tout nouveau Premier ministre parce qu'il veut précipiter une dissolution. Donc il y a aussi ça qui change un petit peu la situation par rapport à il y a 6 mois.
Et qui demande une dissolution, je cite, ultra rapide. Encore un mot, Alexandra.
Avec ce sondage très intéressant de la Tribune dimanche cette semaine, où il montre que le Front républicain, justement, n'existe plus ou est très, très friable aujourd'hui.
Mais moi, cette idée du Front républicain. Quand on regarde un peu les sondages, ce qui est quand même très, très problématique, c'est que 12% seulement des Français croient encore en leur homme politique et 20% seulement leurs députés. Et ça, effectivement, ça nous interroge parce que ça va bien au-delà de ça, parce que les hommes qu'on critique là, ce sont ceux que nous avons élus. Et donc, ça pose une vraie question de démocratie.
Adrien Brachet.
Oui, non, et juste pour conclure, mais comme ça reprendra un peu ce qu'on a dit au début, je pense qu'il y a une véritable irresponsabilité aujourd'hui des partis politiques, pas de tous les partis politiques, mais de la part des partis politiques dont le seul objectif est de dire il faut une dissolution. Déjà parce que c'est mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire avant de dire est-ce qu'on essaye d'avancer, d'abord on dissout, et puis ensuite c'est vraiment, je pense, quelque chose de l'ordre de la pensée magique qui est de dire on va faire une dissolution, on va faire table rase et tout va revenir comme ailleurs, comme avant, et on va trouver une majorité. Et ça c'est faux, le pays, il y aura peut-être des équilibres qui bougeront, mais la tripartition du pays elle est profondément installée, et encore une fois, si on ne change pas notre culture politique, on aura beau faire 15 000 élections, le problème ne sera pas résolu.
Et il n'y a pas que les oppositions qui pensent à l'après Bayrou. Le Premier ministre lui-même aussi, une fois son gouvernement tombé, et en attendant de connaître son successeur, il va gérer ce qu'on appelle les affaires courantes. Il compte bien pour cela utiliser la méthode des décrets pour faire des économies coûte que coûte. On l'a vu hier avec l'AME, l'aide médicale d'État. Il y en a un autre prévu sur le doublement des franchises médicales. Nous allons payer 2 euros par boîte de médicaments prescrite au lieu d'un euro actuellement, et ce dans une limite de 100 euros par an. La méthode des décrets, vous en pensez quoi, Dominique Simonet ?
Ça ressemble encore une fois aux États-Unis. Je ne veux pas me polariser sur les États-Unis, mais c'est vrai que Donald Trump gouverne essentiellement par cela, alors que normalement, il doit aussi avoir l'aval du Congrès. Il y a eu des recours des juges fédéraux, mais bon, de toute façon, la Cour suprême lui donne en permanence raison. C'est compliqué en même temps, mettez-vous à la place des gouvernants, c'est compliqué quand vous n'avez pas de majorité et que malgré tout, il y a des choses urgentes pour le pays à faire. Il faut bien trouver un moyen de gouverner. Simplement, il faut une sanction populaire à un moment. Il faut en tout cas des représentants. Et il devrait y avoir au moins un échange, plus de dialogue politique avec le Parlement. Mais là, encore une fois, c'est une affaire structurelle.
Ces gages qui sont pris un peu proportionnels assez rapidement ou pas, qui vont aboutir bientôt, Adrien Brachet, ce sont des gages, ces décrets, ce sont des gages envoyés à la droite, à l'extrême droite?
C'est assez compliqué, en effet, sur le décret qui est notamment le projet sur l'AME. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à un coup de poker symbolique politicien, parce que même au point, une de nos journalistes a un peu recouper les informations, et je crois que ça ferait une économie, en tout cas elle est arrivée, elle disait que le projet de décret ferait une économie de 400 000 euros par an, oui. Donc c'est pas assez, autant dire que c'est très peu à l'échelle du budget, donc ça ressemble en effet beaucoup à un coup de poker symbolique, politicien, envers la droite et l'extrême droite qui en ont fait un marqueur, donc c'est difficile à comprendre. Par ailleurs, François Bayrou a plusieurs moments a dit qu'il était prêt à travailler sur la fiscalité, donc ça donne l'impression qu'il veut aussi un peu parler aux socialistes, tout en ayant des mots très durs vis-à-vis d'eux, donc c'est un peu compliqué, on a quand même l'impression d'une forme de navigation à vue. Et ce qu'il faut dire, si on parle de l'après-Bayrou aussi, c'est qu'il y a ces décrets qui sont pris, mais il y a aussi toute une série de textes de loi qui, si François Bayrou chute, ce qui est quand même le plus probable à l'heure où on se parle, risquent d'être voir leur avenir menacé. Notamment, il y a le projet de loi sur la vie chère dans les Outre-mer. Il y a le projet de réforme constitutionnelle sur le statut de la Corse. Il y a le projet Gérald Darmanin sur la justice au cours de l'automne. Donc il y a plein de points d'interrogation supplémentaires qui vont s'inviter au Parlement après la chute de François Bayrou.
Il y a le grand projet de fin de vie aussi. Oui. Le fameux grand projet que Emmanuel Macron voulait emblématique de son quinquennat, la fin de vie, elle est sans arrêt remise et en permanence à plus tard. Mais il y a une dizaine de grands projets de loi, ne serait-ce qu'énergétiques et autres, qui sont totalement remis en question. Et ces décrets, ce ne sont que des rustines ou des choses pour faire je ne sais pas quoi, mais c'est des rustines. Et ça va avec ce qu'on disait précédemment. Il n'y a aucun projet global de vision, de fond qui peut être possible aujourd'hui à un an et demi. On ne peut pas. Donc on va gouverner par décret et les projets sur l'assurance...
Ce qui est rendu possible d'ailleurs par la Constitution.
Un mot sur ce sujet. C'est toute une refonte de l'assurance maladie.
Alexandra Saliana, rapidement.
Juste petit point de méthode. Justement, pourquoi est-ce qu'ils le font maintenant? Pourquoi ce sentiment de précipitation? C'est parce que si le 8 septembre, le gouvernement chute, ce qui est très probable, le gouvernement démissionnaire ne peut pas promulguer de décret parce que sinon ce sera considéré comme une fragilité juridique, il pourrait éventuellement être cassé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui ils prennent tous ces textes en série.
Et sachant que ces décrets ne seront certainement pas adoptés avant lundi, le délai est trop court, mais exactement. Au moins ça les met, on va dire.
C'est une tentative. Et justement sur les textes qui sont en cours, qui sont fragilisés par ce gouvernement démissionnaire, vous évoquez la Corse et il y a le côté Nouvelle-Calédonie et Bougival, avec l'accord de Bougival qui a été signé cet été au prix d'un long consensus. C'est un projet d'accord, pardon, le projet d'accord de Bougival qui a été signé auprès d'un long consensus auprès des Kanaks et de tous les Calédoniens, qui est très fragile, qui doit déterminer notamment la tenue des élections provinciales. Et la question, c'est si jamais le gouvernement tombe, que devient la Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on va se retrouver avec des émeutes à nouveau en novembre?
Et on l'a compris, beaucoup de sujets, beaucoup de dossiers à l'arrêt en cas de chute du gouvernement. Parlons de logement pour terminer ces informés du jeudi soir avec un prénom entré dans le langage commun. Tout est parti d'un film. C'était en 2001.
Tanguy, à 28 ans, il habite toujours chez ses parents.
Et on parle depuis de la génération Tanguy, ces jeunes qui tardent à quitter le nid familial. L'INSEE vient de publier aujourd'hui de nouveaux chiffres. Dans les grandes villes, un jeune sur 6, âgé de 26 ans, vit encore chez ses parents. Ça vous concerne d'une façon plus ou moins personnelle, cette situation,
oui, Patricia Lémonière? Moi, j'ai hébergé pendant un certain temps ma fille qui vient tout juste pratiquement de quitter la maison, bon, un peu avant 30 ans, mais bon, vers 26 ans, on va dire, effectivement, elle a
quitté. Alors, les raisons qui sont avancées, ce sont souvent des longues études, la difficulté à trouver du travail.
Longues études, et puis aussi le coût. Se loger dans Paris... C'est pas possible. Il faudrait aller. Elle faisait des études, donc, parmi les autres étudiants, certains habitaient excessivement loin de Paris et mettaient un temps de transport. À la campagne, pourquoi ils partent plus tôt, comme le fait remarquer l'INSEE? Mais parce qu'il n'y a pas de boulot.
À 19 ans, 1 sur 2 qui part à 19 ans.
Parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas d'école, parce qu'il n'y a rien. C'est le désert médical, mais c'est le désert complet à la campagne. Donc les jeunes, s'en vont loin du désert.
Dominique, on a l'impression qu'il y a un recul comme ça, un peu, qu'il y a un retard.
Ça devient de plus en plus cher.
C'est de plus en plus cher. On est tous obligés d'aider nos enfants, surtout quand vous vivez dans une ville comme Paris. Absolument, Patricia a totalement raison. Et donc tout va avec, c'est-à-dire que la possibilité d'entreprendre, de se lancer dans un nouveau métier, d'avoir des enfants, tout ça est retardé. On a une société qui attend et qui en plus est pessimiste vu le contexte. Texte à la fois international et intérieur. Donc oui, c'est une tanguinisation générale, je ne sais pas comment on dit. Mais...
On peut le dire comme ça, Alexandra Saliana, sur cette génération tanguy qui se poursuit.
Est-ce qu'elle a quitté le
domicile près de 25 ans après le film.
Je fais partie des communes rurales qui sont donc parties à Paris justement pour faire des études. Mais c'est aussi assez... ça témoigne de la centralisation de la France et du fait qu'on est encore un pays très jacobin avec... l'essentiel des études, du travail, du supérieur, en fait, qui est concentré dans les grandes agglomérations. On voit qu'il y a toujours la fameuse différence entre la France des bourgs et la France des tours, les métropoles versus le rural. Et ça illustre aussi bien l'étude qui est sortie de l'UNEF, justement, à la rentrée
du syndicat étudiant,
justement, qui disait que le coût, justement, pour les étudiants était de plus en plus important, qu'ils étaient à environ à 1 000 euros par mois, avec 600 euros de loyer. Et pourquoi? Parce que ce sont des jeunes qui étudient très souvent loin de chez eux, loin de chez leurs parents, parce que si on veut accéder à une formation, la carte scolaire du supérieur est dessinée telle que c'est impossible d'habiter près de chez soi.
Adrien Brachet.
Oui, et je pense que tout ça nous rappelle qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas penser la politique du logement, qui d'ailleurs est un grand absent des débats politiques, sans penser la question du développement du territoire et du développement économique. C'est-à-dire que cette situation d'une pression extrêmement forte sur le logement dans les métropoles, dans les agglomérations, est aussi le produit du fait d'une activité économique qui est surconcentrée dans certains territoires, alors que dans d'autres territoires, à l'inverse, vous avez des logements disponibles. Il y a, en France, aujourd'hui, en 2023, il y avait 3,1 millions de logements vacants, selon l'INSEE, et forcément, vous avez des logements vacants encore plus importants dans les territoires, dans les départements qui ont un taux qui ont une démographie plus faible. Et donc, on ne peut pas penser en silo la politique de logement sans penser à cette question de répartition économique sur le territoire et aussi sans penser à toute une série de transformations sociétales. On l'a dit, l'augmentation des étudiants, du pourcentage de jeunes qui font des études et qui font des études longues. Donc ça, forcément, ça a un impact sur le logement. Aussi sur l'augmentation du nombre de familles monoparentales. On doit prendre aussi ce critère en compte qui aussi crée des demandes supplémentaires de logement et avec beaucoup de familles monoparentales qui ont du mal aujourd'hui à payer leur loyer.
On évoquait effectivement les difficultés, Dominique Simonet, je vais vous redonner la parole après. On évoquait les difficultés à se loger pour les plus jeunes. France Info, vous révélez ce matin que la Fondation pour le logement des défavorisés, anciennement Fondation Abbé Pierre, dans son baromètre annuel, annonce qu'une annonce immobilière sur trois ne respecte pas ce que l'on appelle l'encadrement des loyers, qui est en vigueur dans près de 70 villes. C'est une moyenne, explique le délégué général de la Fondation, Christophe Robert.
Par exemple, sur un site d'annonces, c'est 24% d'annonces qui sont au-delà des plafonds. Sur un autre, c'est 48%. Là, on en appelle à la responsabilité.
Responsabilité à la fois des propriétaires qui ont l'obligation d'afficher ces loyers encadrés sur les annonces, et puis celle aussi, Dominique Simonet, des collectivités qui ont le pouvoir de sanctionner, mais qui souvent ne le font pas.
Oui, puis elles ont des difficultés, les collectivités locales. Vu la baisse de leurs revenus, il y a un certain nombre de communes qui ont beaucoup, beaucoup de mal à innover, à investir. Et ça, c'est un autre sujet. Mais vous voyez, cette histoire de tanguinisation...
c'est votre terme, on va le garder. Oui.
En fait, ça devrait être aussi un des sujets dont se saisissent nos politiques, dont on disait tout à l'heure qu'ils n'avaient pas de vision. Ça, c'est aussi de pouvoir avoir un plan pour l'avenir des jeunes, pour le logement, de rénover le l'hôpital, pour les services publics. Ça, sont des grands dossiers. C'est pas en parlant de je sais plus ce qu'a dit François Bayrou aujourd'hui sur les soins balnéaires.
Balnéothérapie sur l'AME hier.
C'est pas en parlant de ça qu'on va changer la France. En revanche, voilà, il faut donner aussi un peu de l'espoir et de permettre aux Français, notamment aux jeunes, de se projeter dans l'avenir.
Patricia.
Alors, il y a plusieurs choses sur cette question-là. Il y a le fait qu'effectivement, l'emprunt pour les jeunes est très difficile. Même si l'emprunt à taux zéro, c'est rien. Ça ne leur permet pas d'acheter un appartement en emprunt à taux zéro, puisque c'est complètement limité.
On
n'est
même pas
limité
sur l'achat de logement. Voilà, hein, on parle de se loger payer un loyer.
Même si on voulait... On dit il y a un problème de logement, même si on voulait accéder, on peut même pas accéder. Et puis, ce que l'on remarque dans cette étude qui est très intéressante, c'est que les endroits où il y a le plus de dépassements et qui sont le moins surveillés, c'est les passoires thermiques et c'est les moins de 10 mètres carrés. C'est-à-dire, c'est les petites surfaces, c'est ceux qui sont à la limite victimes de cette difficulté à se loger, qui sont doublement victimes, puisque effectivement, eux, les loyers sont encore plus chers. Et là, non. Et ces communes-là, qui n'ont pas de moyens, comme vous faisiez allusion, ne cherchent pas à punir ces petits propriétaires qui sont quand même des exploitants pour certains.
Alexandra Saviana.
Justement, la question, c'est quand on est en difficulté et qu'on est contraint de louer une passoire thermique ou une petite surface, effectivement, on n'a pas de levier face à un propriétaire qui ne respecte pas l'encadrement des loyers, parce qu'on sait que si on lâche cette surface-là, il est probable qu'on peine à en trouver une autre. Mais en revanche, peut-être un petit rappel à la loi, en cas de non-respect d'encadrement des loyers, on a une amende qui peut aller pour un particulier jusqu'à 5 000 euros et pour 15 000 15 000 euros pour une personne morale. Donc il y a quand même un coût et l'appel à la responsabilité au propriétaire est quand même assez légitime.
En un mot très vite, Adrien Brachet.
Oui, et je pense que ce débat est potentiellement une véritable bombe à retardement parce que lié à ce débat-là, il y a la question du travail et la question qu'en fait, de plus en plus de gens, on parle souvent du travail qui ne paye pas, et bien en fait, beaucoup de gens ont l'impression qu'aujourd'hui, par exemple, le simple fait de travailler ne permet plus, si on n'a pas des parents qui nous aident, à payer un loyer, voire même à accéder à la propriété. Et donc, je pense que là, il peut y avoir un véritable sentiment d'injustice, de gens qui disent « mais mon travail ne me permet même plus de me loger ».
Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. À la une du point, tiens, Adrien Brachet.
Eh bien, entretien exclusif à Kiev avec Volodymyr Zelensky.
Dont vous nous parliez tout à l'heure.
Voilà, dont on parlait tout à l'heure. C'est Étienne Jernel et Julien Perron qui ont passé beaucoup de temps dans son bureau. Et puis aussi, notre numéro annuel spécial vin avec près de 800 bouteilles testées.
Voilà. Autre sujet.
Il y en a pour tous les goûts.
Voilà, à la une de l'Express, Alexandra Saviana.
Dette, budget, retraite, ceux qui désinforment les Français, les 10 bobards que l'Express va vous décrypter. Et si vous voulez comprendre les finances, achetez le numéro de cette semaine.
Je rappelle le titre de votre livre, Dominique Simonet, Les grands jours qui ont changé l'Amérique au cœur du chaos. Ça, c'est pour vous. Patricia Lémonière, merci à tous ceux aussi qui ont préparé et réalisé cette émission. À réécouter sur le site et l'appli France Info. Les informés reviennent demain matin à 9h. Très bonne soirée.